Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Europe, mais tout particulièrement dans l'Europe du Sud-Est. C'est l'islamisation des Balkans, le contexte actuel, un survol historique. Bref, nous parlons de l'islam en Bosnie-Herzégovine, dans le Kosovo, en Albanie, dans toute cette région-là, avec un fin connaisseur de l'islam dans les Balkans. Je reçois aujourd'hui le professeur Adam Brahimi Saint-Père. Bonjour.
Bonjour, monsieur Metcher.
Merci de venir nous parler de ce sujet ô combien central dans la construction européenne, dans l'intégration de l'islam en Europe d'une manière générale. Vous êtes professeur d'agrégé d'allemand. En même temps, vous étudiez les cas particuliers des minorités dans l'Empire austro-hongrois et vous êtes spécialiste de l'islam bosniaque d'une manière générale. Comment étiez-vous intéressé à ce sujet ?
Alors tout d'abord, bien le bonjour, monsieur Metcher. Merci pour cette invitation. Alors concernant mon intérêt spécifique pour la minorité bosniaque, il se trouve que au sein de mes recherches concernant l'Autriche-Hongrie, je me penchais spécifiquement sur les minorités de l'Empire. Il s'agissait bien sûr d'un empire multiethnique dont aucune composante n'était majoritaire, ni la minorité allemande, ni la minorité hongroise, ainsi que les autres minorités. Il s'agissait pour moi avant tout de mettre en exergue le rôle qu'ont pu jouer toutes ces minorités et les conflits ou bien les convergences qu'il a pu exister au sein de cet empire. Et donc, j'en suis venu à me focaliser particulièrement sur la minorité bosniaque qui était, pour tout le moins, une exception au sein de cet empire vu que la religion dominante de cette communauté était l'islam. Et donc, il s'agissait pour moi de voir comment est-ce que le fait religieux de cette minorité a-t-il pu influencer son vivre ensemble au sein de cet empire, son vivre ensemble avec les autres minorités de cet empire, et quel rôle il a pu jouer. Et c'est en ceci que j'ai commencé à me pencher sur ces spécificités historiques, sur la pénétration de la religion de l'islam en tant que telle au sein des Balkans, et comment cette religion a pu, de nos jours, être un facteur non seulement d'identité religieuse, mais également d'identité culturelle, ethno-linguistique pour cette population.
Oui. On dit souvent que grâce à l'Union européenne, et nous y souscrivons bien entendu, qu'on avait et on a une période de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais on oublie hélas un conflit meurtrier qui a eu au sein même de l'Europe, c'était dans les Balkans, et ce n'est pas parce qu'on est dans le sud-est de l'Europe qu'il faut l'oublier.
Tout à fait, hein, malheureusement, c'est une période assez noire de l'après-chute du entre guillemets bloc de l'Est, donc la désintégration de la Yougoslavie avait pour corollaire un regain des tensions qui étaient enfouies depuis vraiment des décennies, voire malheureusement certains diront depuis quelques siècles, entre les communautés non seulement ethniques, entre slaves d'un côté, albanais d'un côté, et d'autre part entre communautés religieuses, car il faut bien voir à l'esprit qu'il s'agit de la même population à l'origine, hein, que ce soit la population croate, serbe, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la population bosniaque, partagent une même langue, une même culture, et c'est simplement le fait religieux qui est venu les départager et créer malheureusement la tragédie suite au génocide qui a été qualifié comme ceci par le tribunal pénal international sur la population bosniaque au courant des années 90.
Comment expliquez-vous, Adam Brahimi Saint-Père, cette idée qu'on a donné une nationalité relevant d'une appartenance confessionnelle ? Donc on parlait des Serbes, des Croates et des musulmans.
C'est vrai que de nos jours, ça peut nous sembler a priori problématique, voire simplement, hein, on peut se poser la question, comment se fait-il voilà, de donner comme identité à un peuple une religion ? Ben, il se trouve que justement dans le cadre historique de la pénétration de l'islam dans les Balkans, les populations converties à l'origine se sont peu à peu identifiés, non pas par rapport à une ethnie, qui est une notion assez moderne, hein, par rapport à une identité nationale, mais par rapport à une identité religieuse. Et suite au réveil des nationalismes, au début du 19e siècle, qui visait à une indépendance ou à une souveraineté vis-à-vis de l'Empire ottoman, les populations, fur et à mesure, sont détachées, ont redécouvert une identité nationale, et il se trouve que les Bosniaques, ayant été les populations converti à l'islam, ayant eu une identité proche de celle des entre guillemets colonisateurs ottomans, se sont identifiés à cette religion et l'ont pris comme attribut.
On fixe tout de suite le vocabulaire, si vous voulez bien, et vous-même faites bien la distinction entre bosnien et bosniaque.
Voilà, tout à fait. Alors, une fois à ce stade, faire un point sur la terminologie, bien sûr, utilisée officiellement, on appellera bosnien. Je cite également en serbo-croate originel, excusez-moi pour l'accent. Bosanac, littéralement de Bosnie-Herzégovine, ce qui se réfère à l'état multinational de Bosnie-Herzégovine ou à son territoire dans son ensemble. Mais on préférera, bien sûr, le terme de bosniaque, en serbo-croate, bosnak, pour qualifier véritablement le peuple slave musulman du pays et ses caractéristiques nationales.
Vous avez tout à fait raison de souligner que ce peuple-là est un peuple slave et de ce point de vue-là, l'islamité, comme certains hélas continuent à le dire ou à le penser, n'est pas une souche ou une ethnie, c'est une tradition religieuse que les uns et les autres peuvent épouser, quelle que soit leur appartenance ethnique.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment une religion, bien sûr, mais qui n'est qu'un facteur parmi d'autres au sein de cet ensemble qu'est la communauté bosniaque, qui se base sur une communauté de valeurs vraiment multiples. La religion, en effet, mais également la langue, la tradition, comme tout un chacun, comme dans toute l'Europe, qui se base sur de multiples facteurs.
Oui. Alors, avant de revenir ensemble à l'islamisation, la pénétration de la religion islamique, notamment dans les Balkans. Parlons un peu de maintenant, et nous y reviendrons à la fin de l'émission, comment les choses se présentent-elles dans l'état moderne, contemporain de Bosnie-Herzégovine? Les choses sont apaisées? Y a-t-il une coexistence pacifique des différentes communautés ethno-religieuses maintenant?
Alors, suite aux guerres qui ont malheureusement ébranlé la Bosnie durant la première moitié des années 90, un protectorat de fait a été mis en place sur ce territoire.
Après les accords de Dayton.
Après les accords de Dayton, tout à fait, 95. Ce qui a eu pour corollaire que des partis nationaux se sont formés, en effet, qui ont malheureusement repris des lignes de fracture qui existaient déjà pendant la guerre. La plupart des partis qui sont représentés au niveau de l'État national bosnien sont soit formés sur une base religieuse, soit sur une base ethnique. On a le parti serbe pour la partie serbe de la République de Bosnie, la Republika Srpska, un parti croate et un parti dit bosniaque. Bon, malgré ce fait actuel, il faut dire que les nouvelles générations ont su créer un modus vivendi nouveau et le vivre ensemble, bien que difficile, bien que toujours compliqué, dû à un millefeuille administratif qui est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine, trouve sa solution dans le vivre ensemble de tous les jours. Et la nouvelle génération, je pense, veut faire fi maintenant de ces divisions et veut se concentrer vers un avenir commun, dépassant les clivages habituels.
On est surpris de savoir que le haut représentant de l'ONU a des pouvoirs considérables, il peut mettre en cause ou revoir certaines décisions législatives de l'État bosniaque.
Tout à fait, c'est assez étonnant et c'est vrai que je pense que on était assez peu à le savoir. Moi-même, au cours de mes recherches, j'étais impressionné par les prérogatives de ce haut commissaire qui a surtout pour mission d'assurer l'unité du territoire national bosnien contre toute dérive sécessionniste et entre guillemets, de censurer des lois qui pourraient aller à l'encontre d'une partie ou d'une minorité du pays en tant que telle. Il s'agit vraiment de créer, au fur et à mesure, une identité bosnienne qui dépasse ses clivages. La chose étant malheureusement difficile, il se trouve que cet état de fait, avec un haut commissaire de l'ONU, qui fait malheureusement office de gouverneur actuellement, perdure jusqu'à aujourd'hui.
Oui, vous avez une idée ou pas sur la durée de ses prérogatives dans le temps ou c'est ad vitam aeternam?
La mission de maintien de la paix qui est composée de quatre nations différentes, parmi elles par exemple le Portugal, la Turquie, l'Autriche sont encore présents sur le territoire pour une perspective, d'après les récents échos, d'une décennie. La prorogation de fait sera, je pense, une réalité vu que les tensions ne sont malheureusement toujours pas complètement comblées. On espère que dans un avenir moyen, voire pas trop lointain, ces choses pourront se résorber et que la Bosnie-Herzégovine, telle que ceci a été envisagé par les instances de l'Union européenne, pourra rejoindre l'Union dans une perspective bien sûr un peu lointaine.
Comment vit-on Adam Brahimi Sinclair maintenant à Sarajevo, à Tuzla, à Mostar? L'aspect religieux est prégnant ou la jeunesse comme elle est redevenue un peu plus insouciante et aspire à une vie normale, si je puis dire?
Alors la vie religieuse est bien sûr depuis la fin de la guerre civile présente à nouveau, ne serait-ce que parce que le traumatisme qu'a créé bien sûr l'agression serbe sur le territoire et le génocide qui sont suivis. Je ne dirais pas un repli, mais disons un ancrage nouveau sur les traditions et le fait religieux en tant que tel, non pas uniquement au sens religieux, mais au sens culturel, a permis à une communauté de retrouver des repères, de retrouver des valeurs. Mais par-delà, bien sûr, ce fait indéniable, le vivre ensemble tel que j'ai eu l'occasion de l'observer moi-même durant mes voyages à Sarajevo ne pose pas de problème majeur. C'est une ouverture religieuse que cela vaut pour l'islam, mais également pour les autres religions, qui est tolérante, qui est ouverte vers les autres communautés. C'est un partage de tous les jours et le partage est vraiment quelque chose qui regroupe en Bosnie-Herzégovine et ce n'est pas un fait religieux qui divise.
Oui, en dépit du traumatisme que vous avez évoqué, n'oublions pas que Sarajevo était assiégé, l'un des plus longs sièges, 3 ans et 9 mois, me semble-t-il, et ça marque une population.
Bien sûr, aujourd'hui, Sarajevo, bien sûr, n'a pas pensé toutes ses plaies et de lignes de division existent toujours. Elles sont, dans certains cas, invisibles, voire visibles, à la surface des bâtiments criblés de balles qui, heureusement, disparaissent de plus en plus, mais sont aussi préservées dans l'optique d'un devoir de mémoire. À l'image du pays dont elle est la capitale meurtrie, elle subit toujours les conséquences, bien sûr, de l'agression serbe lors de la terrible guerre de Bosnie. Souverain récemment, depuis 92, affaibli par une guerre consécutive à la proclamation de son indépendance, qui provoqua, il faut le rappeler, entre 92 et 95, plus de 100 000 morts. L'état de Bosnie-Herzégovine est malheureusement encore faible et victime de ces crises justement politiques dont je parlais auparavant, qui heureusement n'ont pas la même répercussion sur la population civile. C'est plutôt une crise qui se répercute au sein de la classe dirigeante. La population civile, bon gré mal gré, essaie de trouver sa voie et son chemin plus dans la paix que dans la confrontation.
Oui, c'est vrai. Et après quasiment un quart de siècle depuis la fin de la guerre, il y a maintenant des immeubles tout neufs, il y a une population épanouie ou qui donne l'air en tant que telle, mais il y a aussi les stigmates de cette guerre parce qu'il y a encore d'autres immeubles criblés de balles et qui sont délabrés.
C'est vrai, malheureusement, ce sont des traces qui marquent le touriste et le visiteur. Nous qui pensions, je parle bien sûr de notre contexte français, francophone, occidental, avoir dépassé les contentieux historiques, les contentieux guerriers de l'après-guerre, on découvre aux portes de l'Europe, c'est l'Europe bien sûr en tant que telle, mais disons
aux
portes de l'Europe occidentale, voilà, un paysage qui nous semble relever des livres d'histoire, c'est-à-dire des immeubles malheureusement criblés de balles, une population dont les souvenirs sont encore bien vivaces, des gens âgés d'une trentaine d'années qui ont encore été marqués par cette période extrêmement trouble et dure et qui ont à vivre tous les jours avec ce passé tout en essayant de former un avenir commun. Voilà toute la difficulté de la chose aujourd'hui en Bosnie.
Alors revenons à l'histoire, comment tout cela est venu? Alors on pense toujours à la fameuse bataille du Champ des Merles du 15 juin 1389, dont Slobodan Milošević s'en était prévalu aussi par rapport aux histoires avec le Kosovo cette fois-ci.
Alors oui, on parle beaucoup bien sûr de la bataille des Champs des Merles à la fin du XIVe siècle qui a véritablement marqué l'ancrage et l'entrée des Ottomans en Europe et donc actuellement au Kosovo et au cœur du territoire balkanique. Mais c'est vrai que nous ne devons pas oublier que cet ancrage était bien plus ancien. Il n'était tout d'abord pas autant militaire que religieux. Une filiation religieuse s'est créée au fur et à mesure au sein de ce territoire balkanique avant même que les Ottomans y soient présents. On peut dire vraiment militairement. Jusqu'à présent, la progression de la conquête ottomane dans les Balkans et la domination de la Sublime Porte, telle qu'on appelait l'Empire ottoman, sur l'ancien territoire du Royaume de Bosnie au XVe siècle, une partie de la population autochtone se convertit au fur et à mesure à l'islam. Mais les raisons de cette conversion sont toujours discutées. La plupart des auteurs sont d'accord pour estimer qu'elle ne fut pas contrainte. D'ailleurs, selon l'organisation sociale de l'Empire ottoman, celui-ci reconnaissait le droit des minorités religieuses et garantissait leur protection. Donc voilà, on voit que cet ancrage était multiple et qu'il procédait au fur et à mesure.
C'est-à-dire que lorsqu'on devenait musulman, de fait, on jouissait de quelques privilèges ou des privilèges de l'aristocratie, si c'est tenté que ce soit possible.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la conversion permettait, outre la possibilité d'une ascension sociale, qui était tout à fait réelle, d'ailleurs plus réelle au sein de l'Empire ottoman qu'au sein de l'époque médiévale. Les choses changeront, bien sûr, en Europe occidentale vers la fin de la Renaissance. Mais si on prend en compte la période médiévale, donc des conquêtes ottomanes, il était tout à fait possible je donnerai un exemple extrême, mais qui relève d'une vérité historique, pour un paysan de devenir grand vizir.
Oui, c'est vrai, il y a ce cas-là, et de ce point de vue, il y avait le grand dépit de certains évêques qui disent « voilà, nous perdons des ouailles pour des considérations de biens matériels ».
Voilà, exactement. C'est vraiment un fait qui est étonné jusqu'à des éminentes personnalités au sein de l'Empire. Si l'on pense, par exemple, à l'archevêque de Thessalonique au début du XVe siècle qui voyait en masse des gens se convertir à l'islam. Pour lui, cela relevait simplement, je cite, de gagner de l'argent, devenir des notables et vivre dans le luxe. Donc on voit que les considérations étaient bien sûr d'ordre matériel, mais également d'ordre spirituel. D'autres acceptent en effet la religion des vainqueurs par découragement, se sentant par exemple abandonnés par leurs autorités religieuses et politiques. Je citerai un exemple par exemple de Byzantins, donc l'ancien empire romain d'Orient d'origine grecque, rallié aux Turcs, expliquant leur geste par l'incapacité de l'empereur à les défendre. D'autres au contraire passent à l'islam par conviction, persuadés par la souple propagande des derviches dont nous allons reparler bien sûr tout à l'heure, ou par les succès militaires des vainqueurs qui semblent prouver que la religion des Turcs à la faveur divine. À nouveau, je citerai un jeune grec prêt à adopter l'islam qui disait « Puisque les Turcs ont chassé les chrétiens de leur terre, il y a de fortes chances qu'ils les chassent également du paradis. » Donc on voit que c'est la conversion a pour origine bien sûr des motivations religieuses, matérielles, mais également sporadiques, militaires. Ça ne change pas grandement en fait de la conversion aujourd'hui. Les ressorts ont toujours été les mêmes.
Oui, et elle est curieuse cette idée que si nous avions été vaincus sur terre, nous pourrions l'être aussi au paradis, et donc autant embrasser la religion des vainqueurs.
Voilà, c'est vrai que c'est une originalité, mais qui, dans l'époque du XIVe et du XVe, pouvait tout à fait se comprendre au vu des rapports de force et de présence et aussi de progrès que pouvait signifier l'avancée ottomane dans cette région qui était déchirée, il faut le rappeler, hein, à la fin, aux alentours du XVe, par des conflits entre une obédience catholique, orthodoxe, la minorité bosniaque elle-même étant à l'origine une population majoritairement converti à ce qu'on appelle le bogomilisme, qui était un courant hétérodoxe du christianisme, qui était combattu tout à la fois par le catholicisme et par l'orthodoxisme, et qui se trouvait de ce fait pris en étau entre les deux courants. Et pour certains chercheurs diront même aujourd'hui que l'arrivée des Ottomans et de l'islam a été perçue comme une libération de cet entre-deux qui était très difficile à vivre pour la population de l'époque et qui a encouragé les conversions. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Adam Brahimi Saint-Père, agrégé, professeur agrégé d'allemand tout particulièrement, étudiant pour ses recherches les minorités dans l'Empire austro-hongrois et fin connaisseur de l'islam dans les Balkans. Pour cette deuxième partie de l'émission, Adam Brahimi Saint-Père, vous évoquez l'islamisation des Balkans et comment ça s'est passé cette fois-ci avec les derviches, avec le courant Bektachi. Donc l'approche spirituelle et mystique jouait aussi un rôle.
Il est vrai que le phénomène le plus original dans la diffusion de l'islam au monde balkanique est le rôle essentiel joué par les derviches, qui est un courant plus ou moins hétérodoxe de l'islam qui accompagne la progression politique ottomane en Europe. Bektachi, donc, c'est une dénomination de ce courant hétérodoxe derviche.
Dont le maître éponyme est Hadji Bektash.
Voilà, exactement. Et Hadji Bektash avait bien souvent, et on a tendance à l'oublier, précédé la progression militaire ottomane en Europe. Il y a par exemple une tradition qui dit qu'avant même l'implantation justement des troupes ottomanes en Europe, 70 derviches auraient été envoyés dans les Balkans pour mener à bien une action missionnaire, hein, telle que l'a effectué par exemple Cyril de Méthode pour la conversion des populations slaves au christianisme orthodoxe auparavant. Donc c'est vraiment un imaginaire qui est toujours présent. D'ailleurs, on peut souligner que dès le passage des Dardanelles, d'accord, c'est-à-dire le détroit entre la partie asiatique et européenne de la Turquie par le sultan Orhan, le sultan affirme que Hashi Bektash, donc le fondateur des Bektashi, comme vous l'aviez souligné, envoya de Cappadoce 40 derviches pour prêter main forte au sultan. Selon les traditions de la confrérie, des babas, c'est-à-dire les prêtres derviches, sont d'ailleurs présents en Albanie dès la fin du XIVe siècle.
Baba est une sorte de titre qui ajoute, disons, les cheikhs ou les derviches ou les Bektashi, c'est-à-dire on leur ajoute le
voilà,
titre
c'est
Baba.
Ça, auquel on peut reconnaître une affiliation quasi paternelle, hein, à traduire quasiment littéralement comme père, hein, père Bektashi. C'est un document d'archives d'ailleurs, signale un couvent de derviches à Serres en Macédoine en 1388, donc avant même l'implantation définitive des Ottomans dans les Balkans, ce qui vraiment relève l'ancienneté de la présence de l'islam en Europe. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que, à la même époque, certains territoires, je permets d'aller encore plus en avant dans la réflexion, dans le nord de l'Europe, je pense par exemple
en Lituanie, n'étaient pas chrétiens.
Voilà, exactement, ont été convertis uniquement à la fin du XIVe siècle. Donc, à certains égards, la présence de l'islam en Europe, du moins en Europe du Sud-Est, a été aussi ancienne, sinon plus ancienne, que la présence du christianisme au sein de l'Europe du Nord-Est, en pays baltique.
Alors, il va y avoir aussi une conquête militaire et toute la famille paléologue n'aurait pas résisté, notamment Jean V paléologue, à l'avancée des Turcs. On est au milieu du 15e siècle, vers 1453, il va y avoir plus tard la chute de Constantinople. Comment ces choses-là se font?
Tout à fait. Alors c'est vrai que la spécificité aussi de la progression de l'islam en général dans le monde ottoman et qu'elle était très souple, ne serait-ce que par exemple par une vision, une progression de l'islam qui elle-même relevait plus de l'hétérodoxie que de l'orthodoxie.
Ou d'un certain syncrétisme.
D'un certain syncrétisme religieux, la conversion à l'islam n'excluait jamais la récupération partielle des divers dépôts culturels qui ont pu exister antérieurement. Je prends par exemple que les Bosniaques, donc population musulmane actuelle, fêtent toujours la Saint-Jean. Aujourd'hui, une tradition héritée de ces traditions chrétiennes antérieures. Tout au contraire, sur une longue durée...
Parfois, quand on leur demande quelle est votre religion, ils disent « je suis musulman par la Sainte Vierge ».
Alors oui, ça c'est vrai que c'est un fait qui était extrêmement original et qui m'avait très marqué, le fait que des populations pour se désigner doivent ou par syncrétisme font appel bien sûr à des faits religieux qui leur sont antérieurs, et ça montre vraiment la richesse de ce syncrétisme religieux qui est absolument
riche. Et certains cas extrêmes, si j'ose dire, de syncrétisme, c'est qu'on allait à la mosquée le vendredi et on allait à l'église le dimanche.
Voilà. Exactement, les populations vivant dans des territoires mixtes, voulant être sûrs de leur salut et ne sachant vraiment à quelle religion se fier, voilà, procéder à un syncrétisme religieux, c'est une chose absolument phénoménale qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, comme vous le disiez, aller à la mosquée le vendredi, aller à l'église le dimanche et être musulman mais par la Sainte Vierge, c'est ce qui est assez original. Et donc, c'est vrai que tout au contraire, sur une longue durée, la conversion plus ou moins imparfaite, jointe à la longue cohabitation, donc aux mêmes conditions matérielles et économiques que partagent tous les sujets du sultan, conduit souvent non pas à une islamisation uniforme dans ses articles de foi, mais à un corps de croyances composite qui transforme l'islam ottoman lui-même en une perspective doctrinalement très souple qui assimile des apports très divers et lui donne une nouvelle cohérence. Et comme vous le disiez auparavant, des aristocrates, des hauts fonctionnaires et des notables des régimes balkaniques pré-ottomans n'hésitent pas à embrasser l'islam tout en continuant souvent, comme ça a été le cas d'ailleurs durant la présence musulmane en Hispanie, qu'on appelait à l'Andalus, à ménager les intérêts de leurs anciens co-religionnaires, des princes de sang byzantins tels que le fils du dernier despote de Mistral et de vizir Hashmurad et Mejih Pacha appartiennent tous à la famille impériale paléologue, donc qui a régné jusqu'à la fin de l'Empire byzantin.
D'une manière anecdotique, c'est aussi quelqu'un de la famille paléologue, c'est Manuel IV, qui a eu une controverse avec un lettré persan, et c'est ce dont a évoqué l'actuel pape émérite, l'évêque de Rome, cardinal Ratzinger, pape Benoît XVI, dans son fameux discours de Ratisbonne du 12 septembre 2006. Donc cette famille paléologue a joué un grand rôle, et notamment dans les rencontres et relations, parfois conflictuelles, parfois de dialogue avec l'Empire ottoman. Et une fois l'Empire ottoman ayant étendu sa férule sur les Balkans, comment les choses se sont-elles poursuivies? Il y a eu construction de mosquées, il y a eu une gouvernance, vous dites, assez souple. Comment les choses sont-elles?
Alors, en effet, par la suite donc de la présence ottomane au sein des Balkans, des fondations sont apparus de derviches, bektachis, comme nous le disions en particulier, qui témoignent d'une intense propagande menée par les confréries en Roumélie. Alors je précise, la Roumélie dans le lexique ottoman désigne les Balkans actuels.
Ou le pays des Roums, mais voilà. en turc.
Exactement. Parmi les tekés bektachis, les tekés faisant office de mosquées, mais en ayant une connotation vraiment qu'on pourrait qualifier de spirituel, mystique.
Quasi-monastique, mais il n'y a pas de monachisme, mais il n'y a pas de vie monacale, mais les tekés sont des lieux de rencontre des spirituels, notamment bektachi.
Voilà, tout à fait, et ont participé non seulement à la conversion, mais aussi à la propagation d'un certain mode de vie et d'une culture issue d'un syncrétisme ottoman et balkanique. Parmi les tekés les plus célèbres et les plus fréquentés en Europe, on peut citer ceux de Thrace, de Kizil Deli, le plus important couvent des Balkans, près de Dimetoka, qu'on appelle en grec Didymoteikon, ville natale par exemple de Bam Sultan, organisateur de l'ordre sous Bayezid II. Il y en a également qui se trouvent dans la région d'Edirne, en Turquie européenne actuelle, en Bulgarie, etc. Donc ce sont des couvents qui ont également été implantés en Macédoine, en Thessalie, en Albanie, et d'ailleurs avant même les guerres balkaniques, un réseau serré d'établissements, particulièrement dans le centre et du sud de l'Albanie, en général, ont été présents. Donc on voit que c'est un syncrétisme qui a su s'implanter profondément et durablement et qui ne procédait pas d'une conversion forcée. Bien sûr, il faut regarder les choses comme elles sont. Des conversions forcées, bien sûr, ont existé, comme partout ailleurs. Je pense par exemple à la pratique, tout le monde connaît évidemment les mamelouks, où on a déjà entendu parler, ou bien des janissaires, ces soldats.
Mamelouk veut dire celui qui est possédé au sens d'être asservi, mais finalement les mamelouks vont s'affranchir et deviennent eux-mêmes des dynastes.
Voilà, exactement.
Et les janissaires dont vous allez parler.
Exactement, qui formaient la troupe d'élite du sultan, et justement ces forces armées qui faisaient partie de l'élite militaire du régime ottoman étaient issus d'enfants qui étaient enlevés à leur famille et convertis pour être dévoués entièrement à la cause ottomane. Sachant que ce fait historique existait, évidemment, il ne faut pas en conclure que c'était une généralité. Les conversions, comme on l'avait précisé en début de cette émission, procédaient plutôt par conversion bien réfléchie ou bien par véritable conversion religieuse. Le fait de devoir d'ailleurs son origine à la prédication de derviches hétérodoxes et syncrétiste, a fortement marqué l'islam balkanique dans ses croyances et ses manifestations populaires. La très grande diversité culturelle et linguistique de la zone balkanique a également imprimé un caractère très particulier à l'islam ottoman. Pendant toute son histoire et jusqu'à l'époque contemporaine, le profond brassage culturel de la région, permettant le développement des communautés musulmanes, alors on l'avait dit slavophones, on a les bosniaques, les pomaques en Bulgarie, des communautés musulmanes hellénophones, on l'oublie souvent, mais au nord-est de la Grèce, une communauté musulmane perdure jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle les Valades, et même des communautés...
Et en Hongrie
également, tout à fait, donc jusqu'à l'extrême nord de la péninsule balkanique, et même des communautés musulmanes hispanophones, dans les cas particuliers des, je cite la citation turque, des Dönmeh, donc des juifs séfarades, expulsés suite à la reconquista de l'Espagne actuelle, donc de l'ancien Al-Andalus, qui étaient des juifs séfarades donc convertis à l'islam. Donc on voit que ce brassage autant culturel que linguistique et religieux a créé un véritable atout pour l'Empire ottoman pendant toute la première partie du premier millénaire.
Après, il va y avoir... On arrive au 19e siècle, la sublime porte sera l'homme malade de l'Europe, pas l'homme malade tout court,
tout à fait.
Et encore moins l'homme malade d'Asie. Et comment ces bouleversements vont avoir lieu? Il y a certaines contrées qui vont acquérir leur indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. N'oublions pas qu'on avait quelques États vassaux et qui acceptait la suzeraineté ottomane. Mais ces bouleversements de la fin du 19e siècle, comment se font-ils au sens où après il y aura la place du communisme et le bolchevisme qui va peut-être imprégner cette région tout au long du 20e siècle?
Voilà, tout à fait. Au cours de la lente mais sûre désagrégation de l'Empire ottoman au sein de la péninsule balkanique, à partir du milieu, on peut dire, du 19e siècle, les choses vont malheureusement se compliquer avec l'apparition, depuis la Révolution française, du nationalisme. Des identités nouvelles vont émerger qui vont... au prime abord se référer aux faits religieux pour se distancer du tel qu'il a été défini depuis d'ailleurs le milieu du XVIe siècle du turc musulman. C'est pour ça que les premières populations à fonder leur identité sur le fait religieux seront surtout des populations dont le patrimoine orthodoxe est le plus puissant. On pense à la Grèce, indépendante depuis 1830, dans son combat contre les Turcs. Également, au fur et à mesure, les contrées les plus frontalières de l'Empire ottoman, la Serbie, et ça va se faire dans la guerre, malheureusement, dans des conflits plus ou moins soutenus par des puissances européennes qui auront plus ou moins intérêt à dépecer l'Empire ottoman en faveur de leur empire. On pense bien sûr à la Russie tsariste, on pense aux visées d'États nouvellement créés, bien sûr, de la Grèce. Donc tout cela va créer des conflits qui vont avoir des répercussions jusqu'à nos jours et gréver une coexistence qui existait jusqu'à présent, une coexistence religieuse et ethnique. Et à ce fait religieux va fusionner une identité véritablement qu'on pourrait qualifier d'ethnique au sens moderne du terme, donc spécifiquement serbe, croate. Vous parliez de l'époque communiste. Il est vrai que justement cette parenthèse suite à la libération, on pourrait le dire, hein, quasi autonome de la Yougoslavie, donc de l'occupation nazie suite à la Seconde Guerre mondiale, va pouvoir se mettre en place un régime communiste dirigé par Tito qui essaiera de faire fi de ces divisions non seulement religieuses et ethnique, mais n'arrivera jamais à les surpasser complètement. On le verra d'ailleurs bien, suite au décès de Tito, les décennies qui vont suivre marqueront un retour aux facteurs fondamentaux de la Yougoslavie actuelle, c'est-à-dire malheureusement une division autant ethnique que religieuse.
Alors que pensez-vous de cette parole? La marmite est bouillonné même, et c'était Tito qui maintenait le couvercle, et après la disparition de Tito, le couvercle ne pouvait plus tenir.
Je pense que elle est tout à fait véridique. Malheureusement, la suite historique lui a donné raison à cette citation. On voit que c'est surtout la personnalité de Tito, le charisme de Tito, et surtout, je pense, son ouverture à l'international. Dans l'histoire, on le voit dans ma régime, certains états, certaines confédérations, certaines structures sont liées à la personnalité d'un seul homme. Et suite à sa disparition, les choses se désagrègent assez rapidement. Tito a essayé de créer un équilibre lui-même, n'étant d'ailleurs, malgré le fait que la capitale de la Yougoslavie était située à Belgrade, donc dans la capitale de la Serbie actuelle, lui-même était croato-slovène. Donc voilà, sa personnalité même faisait fi des séparations politiques. Malheureusement, on voit très bien que c'est surtout la férule du parti unique et la vision qu'elle imposait de force qui permettait à l'ensemble de tenir. Et suite à un processus de démocratisation, on voit très bien que les entités régionales et les aspirations ethnoculturelles et religieuses ont pris le dessus à ce moment-là.
Alors, que pensez-vous de la régression ou du caractère récessif, si je puis dire, de la pratique religieuse, notamment en Albanie et même en Bosnie ou dans l'ex-Yougoslavie, du temps du communisme? Est-ce qu'il y avait quelques pratiques ou une crypto-observance de la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et notamment islamique, ou est-ce qu'on a oublié ça puis on l'a redécouvert après la chute du mur de Berlin?
Alors, votre question est tout à fait intéressante parce que justement cette situation diffère suivant les pays et suivant les régions dans leur ensemble. Alors pour des pays, vous aviez cité l'Albanie, donc dans le cas spécifique de l'Albanie, de la Bulgarie, les choses se présentaient assez mal pour les communautés musulmanes sur place. L'Albanie se proclamant même dans le courant des années 60 comme le premier pays, je cite, athée au monde.
L'athéisme était une doctrine d'État.
Voilà, était une doctrine d'État et donc réprimée durement et fortement toute activité religieuse d'ailleurs, hein, qu'elle soit orthodoxe, catholique, ou bien sunnite, même le judaïsme en général. Donc les communautés ont quasiment disparu, en tout cas les structures religieuses qui soutenaient ces communautés avaient quasiment disparu et ont dû être quasiment réimportées suite à la chute du régime communiste en Albanie. La chose était à peu près similaire en Bulgarie, hein, qui avait un régime assez répressif à cet égard. En Yougoslavie, les choses se présentaient un peu différemment, même si le régime, évidemment, avait une vision socialisante, était peu porté à se tourner vers la religion. Le simple fait que la communauté bosniaque s'identifiait par une identité tout d'abord religieuse ou plutôt ethno-culturelle et cultuelle faisait en sorte que on était obligé de lui laisser une marge de manœuvre religieuse. Et en effet, de grands centres religieux étaient présents. On pense à Zagreb en Croatie, à Sarajevo, et des échanges existaient avec le monde arabe, avec le monde musulman dans son ensemble. D'ailleurs, Tito, qui avait une politique très active avec le monde musulman et arabe, dans une optique tiers-mondiste, bien sûr.
Et de non-alignement.
Et de non-alignement, pour essayer de maintenir une équidistance entre le monde dit capitaliste occidental et le second bloc communiste, essayait de maintenir une situation plus ou moins équilibrée, ce qui a quand même permis à l'islam de garder une présence et de survivre dans des conditions assez convenables.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Adam Brahimi Saint-Père, professeur agrégé d'allemand, mais surtout fin connaisseur de l'islam des Balkans. Ses études et ses recherches le portent à s'intéresser tout particulièrement aux minorités dans l'Empire austro-hongrois. Et nous poursuivons pour cette dernière partie de l'émission, cette fois-ci en revenant à l'actualité, à des considérations contemporaines. Professeur Adam Brahimi Saint-Père, on disait que l'islam bosniaque, l'islam à Sarajevo, était un islam plutôt apaisé, serein. Il y avait des patineuses à la patinoire de Sarajevo qui excellaient, ça allait bien. Et d'aucuns disent qu'après la guerre, il y a peut-être même maintenant une offensive wahhabo-salafiste. A-t-elle pris, est-elle réelle, qu'en est-il maintenant, ou est-ce que tout cela relève du fantasme?
Alors en effet, il existe un renouveau de l'islam balkanique depuis la chute du communisme et de la fin de la guerre de Bosnie en particulier. Depuis la fin des régimes communistes, on observe dans les Balkans un renouveau religieux. En particulier de l'islam, de nombreuses mosquées ont été construites ou ouvertes, des établissements d'enseignement religieux ont été créés, les publications religieuses se sont multipliées, des organisations islamiques, locales ou étrangères, ont mis en place des réseaux. Après, il faut souligner que ce fait, comme on avait l'occasion d'en parler auparavant, est surtout lié au fait que l'identité bosniaque en particulier, musulmane, a été gravement touchée et terriblement meurtrie par la guerre de Bosnie, par le génocide qui s'en est suivi, qui a profondément marqué les mémoires. En suivant cette logique, le renouveau de l'islam est autant religieux, culturel que culturel, en se référant à nouveau à une identité qui doit être reconstruite après un fait génocidaire. L'islam, comme on l'avait vu auparavant, balkanique, est tout à fait tolérant, procède depuis sa longue histoire d'un syncrétisme religieux et absolument ouvert sur le monde. J'en ai moi-même fait l'expérience lorsque j'ai eu l'occasion d'effectuer une partie de mes recherches au sein de la ville de Sarajevo. Pour parler trivialement, il est très difficile, dans la plupart des cas, de faire la part des choses. Et qui est musulman, qui ne l'est pas, les gens parlent ouvertement, sont ensemble, certaines portent le voile, certains pas, donc c'est vraiment une approche qui est vraiment extrêmement multiple à appréhender. Il est vrai que pendant la guerre de Bosnie, dans les moments les plus durs auxquels a dû faire face la population bosniaque au cours de l'agression serbe, et face à leur désœuvrement, des filiales internationales djihadistes, de Mujahideen, se sont mises en place pour venir en aide à cette population qui était en train de faire face.
Parce qu'on considérait qu'elle était délaissée et qu'elle n'intéressait pas le monde occidental.
Exactement. Donc, on considérait que ce fait n'a pu se constituer uniquement par l'inaction de puissances armées étrangères, principalement occidentales. Et de ce fait, une solidarité armée s'était mise en place. Des Mujahideen qui sont venus sur place, qui pour certains sont restés après la guerre de Bosnie, ont obtenu la nationalité bosnienne et se sont implantés. Mais suite surtout aux faits historiques récents, aux attentats du 11 septembre et aux années qui sont suivies, des pressions de la communauté internationale ont été mises en œuvre sur le gouvernement bosnien pour faire en sorte de, si ce n'est contrôler, mais voire expulser des populations qui pourraient représenter un danger imminent. Mais vraiment, ces faits sont, je dirais, assez anecdotiques par rapport à la réalité de l'islam qui est vécu sur place. Il est vrai que des investissements également étrangers, auxquels, bien sûr, il faut toujours porter un œil attentif, sont mis en place, provenant du Golfe. Mais bon, il faut faire vraiment attention de faire la part des choses entre des investissements économiques ayant lieu parce que il y a en effet une affinité culturelle et religieuse et vraiment des investissements dans une optique plus prosélyte au sens négatif du terme.
Oui, Mustafa Seric, qui est le grand moufti de Sarajevo, est bien impliqué dans le dialogue interreligieux au niveau international. Il est membre même du présidium, tiens, ça nous rappelle l'histoire de l'Union soviétique, de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Donc, vous pensez que l'islam tel qu'il est perçu, vécu, pratiqué d'une manière on ne peut plus ordinaire et harmonieuse même dans l'état actuel de Bosnie-Herzégovine pourrait être transmissible ailleurs.
C'est un fait dont je suis convaincu, car dans ce débat qui résulte donc de recomposition politique et sociale post-communisme, maintenant en parlant particulièrement de l'islam bosniaque, la question de l'articulation entre identité nationale et identité religieuse est étroitement liée à celle de l'identité européenne et de l'existence véritablement d'un islam européen dans la perspective plus ou moins éloignés de l'intégration européenne des différents pays de la région, car les musulmans d'Europe sont aussi ces musulmans de l'autre Europe. Et je pense qu'en prenant exemple ce processus extrêmement complexe, on le voit hein, comme tout processus d'ailleurs d'articulation en général, est non seulement assimilable, mais est un modèle auquel on doit tendre pour trouver des solutions. Ça ne veut pas dire bien sûr que ça pourra se faire du jour au lendemain, les difficultés existent et perdureront, mais je pense que ce dialogue et cette exemple-là d'une coexistence religieuse qui a existé depuis des siècles et continue à exister malgré toutes les difficultés doit servir d'exemple.
Oui, alors il y a deux choses. Il y a ceux qui disent que l'islam est resté en Europe sans discontinuer depuis 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule qui depuis lors portera son nom. Mais après le départ, suite à la Reconquista en Espagne, il y a eu une sorte de relais dans cette partie de l'Europe, l'Europe du Sud-Est. Et donc, de ce point de vue-là, l'élément islamique n'est plus à considérer comme un élément intrus, allogène, incongru, invasif, parce que ça fait partie, c'est ainsi, c'est l'histoire de l'Europe.
Tout à fait, je pense que l'islam, en tant que grande religion monothéiste, est aussi peu étrangère à l'Europe que l'est le christianisme ou qu'est le judaïsme. C'est une progression qui, comme vous l'aviez explicité, date de très longue date et donc a eu lieu de manière progressive et s'est répandue suivant les aléas historiques. On avait cité l'exemple de la Lituanie en particulier, qui est devenue majoritairement chrétienne au même temps, voire après que l'implantation de l'islam au sud-est de l'Europe. Voilà, c'est un fait historique à prendre en compte et je pense qu'une assimilation, une coexistence est tout à fait non seulement possible, mais existe déjà de fait. C'est l'islam en tant que grande religion monothéiste est une composante de facto de l'Europe et tout sauf exogène. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, dans mon travail, donc dans le cadre de mes recherches que j'effectue particulièrement au sein des minorités de l'Empire austro-hongrois, où j'essaie d'identifier les identités multiculturelles de cet empire et ses adaptations institutionnelles, on peut retrouver des exemples d'adaptations institutionnelles suite aux défis que représente l'intégration d'un fait religieux. Par exemple, la communauté bosniaque était former le plus grand soutien à l'Empire et former la troupe de choc de l'armée du K&K, hein, qu'on appelle Kaiserlich und Königlich, donc impérial et royal. C'était un empire donc multiethnique. C'était un des premiers, si ce n'est le premier État européen à donner un statut officiel à la région musulmane. Il y avait des prières pour l'empereur durant la prêche des imams, eux-mêmes rémunérés par l'Empire et aumôniers des soldats bosniaques de l'armée impériale. C'était également un modèle d'osmose et de cohabitation. Donc on voit que des processus d'adaptation institutionnelle à une situation, qu'elle soit culturelle ou religieuse, peuvent mener à un vivre ensemble qui voilà, peut servir de solution sur le long terme.
Oui, et à ce sujet, bien qu'il y eût, ou peut-être qu'on l'avait dépassé, la crainte ou la peur du grand turc ou du péril turc, l'élément islamique dans les troupes de l'empereur était considéré comme faisant partie de la réalité de l'empire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à cet égard, comme vous venez bien de souligner, les troupes bosniaques, justement, musulmanes, étaient formées non seulement à troupe de choc de l'empereur austro-hongrois, mais étaient également considérées comme la troupe la plus fidèle, ne serait-ce que parce que l'Empire leur assurait la possibilité de vivre leur religion et de la vivre paisiblement dans un ensemble balkanique qui, juste avant la Première Guerre mondiale, hein, au début du XXe siècle, était véritablement une poudrière et dans d'autres cas, cette population n'aurait peut-être, voire n'aurait certainement pas eu l'occasion de vivre sa religion et de vivre paisiblement quand on voit les exactions qui ont eu été commise de part et d'autre d'ailleurs, hein, mais au sein d'autres États. On pense à la Roumanie pré-Première Guerre mondiale, à la Bulgarie, etc. La communauté religieuse, l'Empire assurait à la communauté bosniaque une sécurité qui, par la suite, comme on l'a vu malheureusement avec les terribles guerres de Bosnie, était loin d'être assurée.
Oui, cela pose la question de la fameuse loyauté et l'allégeance. L'allégeance et la loyauté sont d'abord à la nation en tant que telle, et aussi c'est selon le droit. De nos jours, le débat captieux, oiseux sur que les musulmans d'Europe, et particulièrement en France, auraient une quelconque allégeance autre que la nation est un débat qui n'a pas lieu d'être.
Vous avez tout à fait raison, c'est un débat dans le cadre d'une construction nationale, la loyauté, l'allégeance est un fait qui s'inscrit de manière, qui devrait s'inscrire de manière évidente à la nation, au pays et à son territoire. La religion étant une chose personnelle, étant une chose individuelle, je veux dire qu'elle ne devrait même pas entrer en ligne de mire. Peu importe le fait religieux, ici on parle de notre ensemble francophone, que l'on soit bien sûr chrétien, juif ou musulman, c'est avant tout une conviction individuelle qui ne s'entrecroise pas, d'ailleurs, avec l'allégeance à un pays. Et d'ailleurs, c'est bien la signification originelle et primaire du terme de laïcité, le fait que l'on sépare le fait religieux du fait politique. Le fait politique est une chose, et c'est et l'allégeance d'une nation, enfin d'une personne à un pays est absolument indiscutable. Et puis après, le fait religieux est personnel, et chaque personne jugera suivant son interprétation, mais en ayant toujours dans l'optique une vision de vivre ensemble et de cohabitation en paix et en fraternité.
Alors, une dernière question, professeur Adam Brahimi Semper. Quelle est la nature du régime politique en Bosnie? C'est un État laïque, une laïcité de fait, ou comment les choses se présentent-elles?
Alors, au niveau fédéral, car concernant la Bosnie et Herzégovine, il s'agit bien d'un État de structure fédérale. Alors, pour rappeler le contexte rapidement, les accords de paix de Dayton de 95 ont gelé les positions des parties belligérantes sur le terrain en créant deux entités fédérées. D'une part, la République serbe, donc en serbo-croate, la Republika Srpska, qui représente 49% du territoire et 31% de la population. Et d'autre part, nous avons la Fédération croato-musulmane, en serbo-croate, la Federacija Hrvatska i Muslimana, qui occupe 51% du territoire et représente 68% de la population. Donc, de ce fait, c'est un État fédéral composé de deux entités majoritaires. La cohabitation de ces deux entités n'est pas rendue aisée, bien sûr, par la lourdeur bureaucratique et le millefeuille administratif qui les caractérise, mais le vivre ensemble existe et il est fondé sur une structure laïque. C'est-à-dire que, comme en France, l'État n'est fondé ou ne possède aucune religion officielle, et c'est aux autorités après fédérées, aux structures fédérales, d'agir suivant leur convenance, mais toujours dans un cadre laïque, dans le domaine de l'éducation, etc. par exemple.
Merci, merci infiniment, merci professeur Adam Brahimi Semper, merci de nous avoir édifiés sur la présence de l'islam dans les Balkans, dans cette région de l'Europe, le sud-est de l'Europe. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation a été assurée par Vanessa Nadjar.